Ce que j'aime le plus, c'est l'aventure. Partir en rando, en bivouac, dormir sous les étoiles, prendre le large, apprendre à faire de l'apnée, surfer au lever du matin. Mais parfois, c'est pas facile de trouver les copines disponibles et motivées pour partager ce genre d'aventure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te présenter Audensia. Audensia, c'est une petite agence créée par Maeva qui propose des séjours aventure et bien-être 100% féminin. Au programme, un week-end randonnée à ski avec deux nuits en refuge au cœur des Alpes. De la voile d'hiver et d'été dans les fjords en Norvège. Une rando à cheval et bivouac sur plusieurs jours à travers les Pyrénées. Le tout avec du yoga, de la méditation. Bref, c'est le programme de mes vacances de rêve. Rien besoin d'organiser, juste profiter avec des meufs trop cool. Si tu écoutes ce petit message et que tu embarques toi-même sur un séjour Audensia, n'oublie pas de dire à Maeva lors de ton inscription que tu viens de ma part pour bénéficier d'un petit cadeau de moi-même. Pour découvrir tous les séjours Audensia, rendez-vous sur audensia.com. Épisode 136 avec Laurent Marchand. Bienvenue dans la saison 4 de mon podcast. Moi, c'est Anouk, je suis professeure de yoga, une aventurière, et mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Je pense que, comme l'océan, c'est un univers riche et complexe. Dans ce podcast, que j'appelle aussi mon journal de bord, tu trouveras tous les mardis, dès 7h du matin, un nouvel épisode de moi ou de mes invités, pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie, c'est-à-dire à rayonner dans tous les domaines et vivre ta meilleure vie. Pour recevoir plus d'informations et de partages, rendez-vous sur mon site internet anoukcoroller.com et inscris-toi à ma newsletter. Laurent Marchand est coach, conférencier international, auteur et fondateur du mouvement Tout est possible, qui aide des centaines de milliers de personnes à créer des vies spectaculaires. Son livre, Tout est possible, est un mode d'emploi complet qui vous permettra de vous débarrasser de vieilles croyances afin de créer une vie qui vous épanouit pleinement. J'ai d'ailleurs adoré le livre et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont lu également, ce qui me remplit le cœur. C'est la deuxième fois que Laurent Marchand est l'invité du podcast. Lors de notre première interview, il a décortiqué pour nous le processus de matérialisation. Je vous invite d'ailleurs à aller l'écouter si ça n'a pas été déjà fait. Dans ce deuxième volet, nous plongeons dans une thématique que je trouve si importante, les relations. Je questionne donc Laurent Marchand pour recevoir ses meilleurs conseils et nous aider à créer une vie relationnelle qui nous nourrit et qui nous élève. Vous découvrirez notamment pourquoi la plupart d'entre nous souffrons de la solitude et comment se sentir en lien avec les autres. Comment bien s'entourer et l'importance de bien s'entourer. Laurent Marchand parle de ses propres amitiés, de ses ruptures et de comment il a réussi à transformer certaines épreuves en véritables sources de sagesse intérieure. Il partage également les phrases importantes qui l'ont guidé et continuent à le guider sur son chemin relationnel, des phrases que vous voudrez noter et accrocher chez vous pour les relire fréquemment. Vous trouverez également comment refaire confiance après avoir été blessé ou trahi, quels sont ses big no-nos dans un couple, la place de l'intimité et de la sexualité et bien plus encore. Personnellement, j'ai pris plein de notes pendant notre conversation et je vous invite à en faire de même. Et puis je sais que c'est un épisode que je vais avoir envie de réécouter plusieurs fois. Pour retrouver les liens vers les programmes, formations et événements de Laurent Marchand, rendez-vous dans la fenêtre de l'épisode de ce podcast. Allez, j'arrête de vous faire patienter. C'est parti pour l'interview de l'inspirant Laurent Marchand. Re-bienvenue sur le podcast, Laurent. Merci infiniment de revenir. Ton premier épisode a été un succès incroyable. La plupart de mes amis ont acheté le bouquin, on en parle régulièrement, on revient sur certains concepts. Donc je suis vraiment hyper heureuse de te réaccueillir. Merci.
Et moi, hyper, hyper honoré chaque fois d'être là avec toi et puis voilà, d'être l'interlocuteur à qui tu vas poser tes questions. Franchement, ça me touche à chaque fois et ça me touche aussi que ce soit un succès. Et ça me touche que les gens achètent le livre. Ça me touche, quoi. Je trouve que le monde se réveille et c'est merveilleux. J'ai l'impression que ma petite contribution sert à quelque chose, tu vois.
Complètement. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'un sujet qui me tient à cœur, qui est les relations. Parce que pour moi, avoir des relations épanouies, c'est au centre de ma vie. C'est quelque chose où j'ai l'impression d'essayer continuellement de m'améliorer. Et pourtant, ça reste un domaine qui est tellement complexe, qui nous montre tellement de choses à propos de nous-mêmes. Donc, j'avais envie justement que tu ajoutes ta contribution, ta patte à tout ça. Donc, la première question que j'ai, c'est sur un point que je trouve est presque une maladie nationale, qui est le fait de se sentir seul, la solitude. J'aimerais savoir, décortiquer pour toi, c'est quoi la solitude? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes aujourd'hui qui souffrent de la solitude? Et là-dedans aussi, comment est-ce qu'on fait pour se sentir entouré ou s'entourer?
La solitude, ça a été un gros sujet dans ma vie. Déjà parce que moi, j'ai détesté ça quand j'étais enfant et quand j'étais adolescent, mais vraiment, j'ai détesté être seul. Et j'ai vu autour de moi, notamment ma mère, organiser sa solitude. J'ai l'impression que la solitude, c'est une sorte d'incompréhension du modèle relationnel. C'est-à-dire que c'est une réécriture de la relation. C'est comme si, en fait, on avait tellement peu d'éléments sur, justement, comment rentrer en lien avec les autres, comment choisir les gens qui sont autour de nous. On a tellement peu d'informations là-dessus, on n'est tellement pas aidé. Parce que dans notre éducation, il y a très peu de choses. Parce que dans nos apprentissages, même scolaires, il y a très peu de choses. Et on nous apprend pas à être OK les uns avec les autres. On va le faire par défaut quand il y aura un problème dans la classe et la maîtresse va nous dire tiens, c'est comme si, comme ça, comment qu'il faut se comporter. Mais il y a pas d'éducation à la relation, il y a pas d'éducation à l'amour, il y a pas d'éducation au respect, il y a pas d'éducation à ça. Et après, on s'étonne que la société va vers quelque chose où le modèle relationnel, il est absolument incompris. Et donc, du coup, il est bafoué par des volontés personnelles et des contrôles. Je veux que l'autre soit comme ci et comme ça, sinon je le fréquente pas. Et ces volontés personnelles, c'est, moi, c'est comme ça que ça marche, tu vois. Et qui même me suivent et les autres, t'allais vous faire foutre. Et donc, du coup, c'est un modèle relationnel totalement déviant. Donc, à un moment donné, il faut juste se poser la question de savoir c'est quoi la relation, en fait. C'est quoi la relation? Comment je fais pour être en relation avec les autres? Et comment j'arrête de croire que le monde entier est contre moi et j'arrête d'organiser ma solitude en imaginant que j'intéresse personne, que tout le monde est intéressant. Je veux dire, tu retires un être humain sur cette planète et ça tourne pas rond. On a besoin de cet être humain-là, même s'il est au fin fond du monde et qu'on le connaît pas. C'est nécessaire qu'il soit là. Tout le monde est important ici. Il n'y a pas une personne plus importante qu'une autre. Donc, quand on comprend ça et quand on comprend qu'on a notre place et qu'on comprend qu'en fait, on peut se connecter avec des gens qui ont aussi notre façon de voir les choses, notre humour, notre envie de vivre les mêmes délires ou les mêmes loisirs. Et bien là, on commence à s'ouvrir. C'est juste ça, en fait. Et en fait, ce manque d'éducation, comme d'ailleurs tous les manques d'éducation à tous les niveaux, ça crée la peur, en fait. Et ça crée la peur de l'autre. Moi, je pense que je m'en suis sorti avec deux phrases. Alors, on peut trouver ça un peu désuet. Mais c'est deux phrases qui m'ont suffisamment marqué pour que j'y pense quasiment tous les jours, H24. Quoi. Je me couchais avec ces phrases, je me levais avec ces phrases. Et la première, c'est « traite l'autre comme tu aimerais qu'il te traite ». La première fois que j'ai entendu ça, ça m'a fait drôle parce que je me suis avoué intérieurement que ce n'était pas du tout le cas, que je ne traitais absolument pas les gens comme j'aimerais qu'ils me traitent. Et donc, du coup, je me suis dit « et si je tentais ça, qu'est-ce que ça donnerait ?» Et là, ça a été une remise en question énorme parce que j'avais beaucoup d'égoïsme, de jalousie, j'étais totalement égocentré, j'avais peur des gens, j'avais peur des femmes, j'avais peur des hommes, j'avais peur de tout le monde. Et donc, du coup, je me suis dit, ça passe par déjà, a priori, la confiance. Ok, t'as confiance et tu vas traiter l'autre exactement comme t'aimerais qu'il te traite. Et j'ai commencé à faire ça. Et ça a été assez intéressant parce que Il y a un geste que j'ai posé à un moment donné où en fait je marchais derrière quelqu'un qui était en train de porter ses courses. Tu sais, c'était un mec qui portait ses courses. Il portait deux sacs quand même très très lourds. Et je me suis dit, si tu devais traiter ce mec comme tu aimerais qu'on te traite, qu'est-ce que tu ferais, tu vois? Et je me suis dit, bah en fait, je vais l'aider. Mais je vais pas l'aider en lui disant, je viens te sauver, tu vois. Je vais lui dire, laissez-moi, je vais vous aider. Je vais juste dire ça pour rien avoir à chercher en retour. J'ai pris son sac de course et j'ai vu qu'il l'a serré d'un air de dire, oula, c'est qui ce mec? Est-ce qu'il n'est pas en train de me piquer un truc? Je dis, mais ça a l'air lourd, laissez-moi vous aider. Et en fait, je prends son sac et j'ai marché à côté de lui. Et lui, donc, il tenait l'autre sac à deux mains, c'est pour dire. Hein. Il tenait l'autre sac à deux mains, il marchait comme ça. Et puis, il me regardait, genre, à tout moment, je pouvais me barrer en courant avec ses courses, ce qui était compliqué, comme le sac était lourd. Mais il me regardait parce qu'il ne comprenait pas. Et je lui ai dit, on va où? Il me dit, la voiture là-bas. Je dis, OK. Et donc, moi, j'ai avancé parce que le truc était lourd, tu vois. J'ai avancé, puis j'ai posé le sac derrière, devant le coffre, là. Et j'ai dit, bonne journée. Il m'a dit, bonne journée. Merci. Tu vois, le mec, pas du tout prêt, tu vois. Et en fait, je ne l'ai pas fait pour lui, je l'ai fait pour moi. Je me dis, voilà, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es content d'être ce mec juste? Est-ce que tu es juste content d'être ce mec? Est-ce que ça correspond à ce que tu veux devenir dans la vie? Et donc ça, c'était vraiment un geste qui a été un geste switch pour moi parce que je me suis dit, en fait, ça nécessite aucun effort particulier. Enfin, juste, t'es là, t'es bienveillant, tu aides quand il faut aider. Si la personne dit non, c'est bon, tu l'aides pas, puis c'est tout. Voilà, c'est juste, t'es là et t'essayes d'être une bonne personne là et t'en fais pas des caisses. Donc ça, c'est la première phrase qui m'a vraiment fait du bien. Et la seconde, c'est passe 2 heures dans un ascenseur en panne avec ton pire ennemi et quand vous ressortirez, vous serez amis les bras dans les bras. Et ça, je me suis dit, c'est tellement vrai. Moi, il y a des tas de gens que j'ai absolument détestés dès que je les ai rencontrés. Et plus je les ai connus, et plus je me suis dit, ce sont vraiment des mecs formidables. Mais c'est vrai qu'a priori, j'avais des clichés dans la tête. C'était pas le ressenti. Hein. Le ressenti, à l'époque, je l'écoutais même pas. C'était juste, lui, il ressemble à ça, c'est pas OK pour moi. Et mes meilleurs amis, notamment le parrain de ma fille, c'était quelqu'un, je suis arrivé au lycée, il avait un look cure avec les cheveux en pétard, maquillage, etc. Ils étaient deux comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces deux blaireaux, quoi? Et j'ai posé un jugement direct. Je pense que ces deux mecs ont été déjà deux de mes très, très grands amis. Et lui, en particulier, je pense que c'est quelqu'un qui... Je pense que c'est un génie absolu. Je pense que c'est un grand philosophe. Je pense que c'est... Mais il était déjà un génie, là. Et en fait, maintenant que je connais et que je fréquente et dans mes conversations, je profite de ce génie-là. Je me dis, tous les mois pendant lesquels je l'ai jugé, j'ai pas profité du cadeau. Et je me dis ça, lui, pour moi, c'est vraiment l'exemple du mec. Voilà, je l'ai rejeté, donc j'étais seul et très bien parce que je voulais pas être avec ces types. Et après, je me suis rendu compte que j'avais perdu un temps pas possible. Donc c'est vraiment une réorganisation du modèle relationnel. Se dire que, déjà, moi, je commence à traiter l'autre comme j'aimerais qu'il me traite, et non pas je le traite mal parce que j'imagine que de toute façon, lui, il s'en fout, donc il va mal me traiter. Non, c'est un autre système qui se met en place. Et après, j'arrête de juger. J'arrête de juger, c'est-à-dire, voilà, j'écoute mon ressenti. Je pense que ça, c'est vraiment très important. Quand il y a quelque chose ça me plaît pas à l'intérieur, mais je sais pas l'expliquer, c'est du ressenti. Je me dis, bon, allez, va pas là-dedans, c'est des fréquences qui sont pas OK pour toi. Va t'acoquiner avec des fréquences qui sont OK. Ça, c'est bon. Mais après, tu juges pas. Et même ces fréquences-là qui sont pas OK, tu juges pas, tu t'en fous. T'as pas besoin d'avoir un avis sur les gens, t'as pas besoin d'avoir un avis sur toi. C'est OK. Et voilà. Et crée la relation. Et puis, bon, après, voilà, il y a des grands moments dans ta vie quand tu lis Comment se faire des amis de Dale Carnegie, tu comprends beaucoup de choses. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Mais c'est toujours une réécriture du modèle relationnel. C'est apprendre à être en relation. Et quand tu apprends à être en relation, t'es plus jamais seul. Parce que tu te rends compte déjà qu'il y a énormément de choses à vivre avec les gens et que ces gens qui sont autour de toi, ils aiment vivre des choses avec toi, tu vois. C'est pas juste toi qui va profiter des autres, mais c'est les gens aiment vivre des choses avec nous. Ils aiment qu'on soit amis, ils aiment qu'on soit proches, ils aiment qu'on discute. Bon, hier, je suis allé déjeuner avec deux amis à moi. Quel bonheur c'était. On était 6 autour de la table. Donc nous, on est arrivés à 4, ils étaient 2, mais juste la présence, les vannes, le rire, rien que l'élégance de ces gens-là, tu vois, tu te dis, putain, mais merci, quoi. Je me remercie de pas être le même gars que quand j'avais 20 piges où je détestais tout le monde, où j'avais l'impression que voilà, les gens étaient les ennemis, quoi, tu vois. Voilà, merci, merci à moi, je suis trop content.
C'est trop beau, merci beaucoup, j'adore ces deux phrases. Dans la deuxième, surtout, j'ai bien compris qu'il y avait vraiment cette différence que tu mettais en lumière de l'aspect cognitif qui va juger et l'aspect ressenti. J'aimerais qu'on décortique un petit peu ça parce que, comme tu l'as dit, il y a des fréquences quand même qui sont plus basses, il y a des fréquences qui sont plus hautes.
Oui, ou c'est juste des fréquences différentes. Enfin, après, moi, basse et haute, j'ai du mal, mais c'est juste des fréquences avec lesquelles on ne s'accorde pas.
Ouais, ok.
Mais c'est ok, en fait, tu vois, c'est ok. Il y a des gens, a priori, on sent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais ce n'est pas grave. Moi, c'est un truc que j'ai appris il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. J'étais en conflit avec un de mes meilleurs amis qui, quasi du jour au lendemain, est devenu odieux. Alors, ça, il a commencé à être odieux avec les gens, il a commencé à être odieux avec les femmes. Et ça m'a beaucoup choqué. Et donc, je lui ai dit que ça m'avait beaucoup choqué. Je lui avais dit, écoute, c'est pas le truc que j'ai envie de vivre, c'est pas le trip que j'ai envie de vivre avec mes potes. Donc voilà, on essaye d'éviter ce genre de truc, tu vois. En tout cas, tu le fais, mais pas avec moi, parce que je me fous mal à l'aise. Et en fait, je pense que ça, je sais pas comment il l'a pris, mais ça a été le déclencheur d'une grande succession de maladresses de sa part, et il est devenu odieux, voilà. Et à faire des choses qui étaient vraiment tellement dans la trahison de notre amitié, etc. Bon, c'était terrible. Donc moi, évidemment, j'ai essayé de me dire, non, non, il n'est pas ce que je vis avec lui, il est les 20 ans de rencontre de connaissances, etc. Mais j'avais le sentiment que, tu vois, il y avait un truc qui dérapait sur la fréquence et que je disais, je vois que c'est lui, mais je reconnais pas fréquentiellement mon ami. Je sais pas où il est mon ami, en fait, fréquentiellement. C'est-à-dire, je sais pas si les gens peuvent entendre ça, mais il a plus l'énergie du mec avec lequel j'ai piqué des fous rires, avec le mec avec lequel j'ai eu des grandes conversations sur la vie, sur les enfants, sur... Il était plus là. Fréquentiellement, énergétiquement, il était plus là. Par contre, physiquement, c'était toujours le même. Mais il disait des trucs absurdes, il faisait des trucs absurdes, il était dans une espèce de méchanceté totalement déclarée. J'ai dit, ok, bon. Et puis, évidemment, c'est effectivement, j'étais touché, j'étais blessé. Je me disais, non, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Et une de mes amies me dit, aujourd'hui, est-ce que tu peux donner une raison, une seule, qui justifie que tu sois encore ami avec lui? Et là, grand silence. Grand silence dans ma tête, grand silence dans mon cœur, grand silence. Et je dis, bah, en fait, je trouve pas. Cette personne me dit, il y a des millions de gens autour de toi. Pourquoi tu t'acharnes à rester ami avec quelqu'un pour qui tu n'as absolument plus aucune amitié et qui n'en a visiblement plus pour toi? Et ça, ça a été aussi un grand moment où je me suis dit, putain, des millions de gens. Et moi, je perds mon temps avec quelqu'un qui est abject, quoi. Ok, on s'arrête. Mais je vais mettre les choses au point avec lui. Je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit, je vais juste te poser une question. Étant donné qu'il y a des millions de gens autour de nous et qu'on peut être amis avec des millions de gens, donne-moi une raison. Je pense que c'est la meilleure preuve d'amitié que j'ai eue dans ma vie. Donne-moi une raison pour qu'on continue d'être amis. Une seule. Je t'en demande pas plus. Une seule raison. Et là, grand silence. Je dis, ok, bon, je pense qu'on est d'accord. Je te souhaite une bonne journée. J'ai raccroché et on ne s'est plus jamais parlé. C'est terminé. Moi, j'ai le souvenir de quelqu'un avec lequel j'ai été très ami pendant très longtemps et qui était quelqu'un qui a été extrêmement précieux dans ma vie. Je ne le limite pas à ça. Tu vois, à cette période de conflit. Mais par contre, terminé. Donc, il y a... Je ne sais même pas si ça répond à ta question, mais je pense que ça, cette phrase de « il y a des millions de gens autour de nous, donc pour quelle raison on continuerait d'être amis avec des gens qui nous font mal ?» Moi, je vois des clients... Je fais des formations où il y a 1000 personnes, tu vois. Donc, des cas, il y en a plein, quoi. Il y a des gens qui arrivent en me disant, ouf, moi, ma meilleure amie, elle m'a dit ça, ça m'a super blessé. Et il y a des commentaires qui disent, ah oui, moi aussi, j'ai une amie qui se plaît à faire ça. Les gars, qu'est-ce que vous cherchez avec ces gens-là, quoi? Je veux dire, comment vous pouvez appeler ces gens-là des amis? Ben, je veux dire, à partir du moment où ces gens, ils vous flinguent parce que vous avez un projet, parce que vous voulez vous mettre à votre compte, parce que vous avez des ambitions financières, parce que vous avez envie d'être dans l'amour. On a eu des commentaires de gens qui nous disent, depuis que je travaille pour rencontrer l'amour dans ma vie et puis vivre une belle relation épanouie, mes amis se moquent de moi, etc. Pourquoi on se moque de quelqu'un qui veut être heureux? Donc ça, tes amis, entre guillemets, t'es sûr? Va chercher les gens qui sont heureux pour toi. Va les chercher. Ils sont partout autour de toi. Va les chercher. crée-toi un environnement qui va être favorable à tes projets, à tes ambitions. Il y a plein de gens qui seront pas, qui comprendront pas. Mais c'est pas pour autant que ce sont des gens qui vont te casser le moral. Ils vont juste dire, ah bon, et comment tu fais? Ah bon, ah, c'est ça qui t'intéresse. Et voilà, c'est tout. Ils vont être curieux. Mais ils vont pas te casser le moral. Donc, je crois que cette phrase m'a réveillé à ce truc-là. Il y a des millions de gens qui je choisis. Ça, c'est la première chose. Parce que ce choix, il va pas se faire par le mental, en fait. Il va pas se faire par, justement, nos capacités cognitives. On va voir des gens, mais on va les sentir. C'est l'impression des premières minutes. On dit, voilà, la première impression. Bah, cette première impression, elle est très intuitive. Nous, on travaille beaucoup avec ça. On développe beaucoup ça et on adore ça. Et en fait, en développant l'intuition, on se rend compte que très rapidement, on sait, mais que avant, c'était l'ego qui reprenait le dessus et qui disait tu te gourres, tu juges, c'est pas ok, machin, nanana, donne-lui une chance, bah. Et donc du coup, on passait du temps avec des gens dont on sentait dès le départ que ça matchait pas. On a tous vécu des moments où on a rencontré, je sais pas, la petite copine de notre pote ou le petit copain de notre copine. Et puis, ça sent le bonheur et tout, mais nous, on sent pas cette personne. Et voilà, et puis plus tard, on retrouve notre pote ou notre copine en train de bouffer du Häagen-Dazs à 2h du matin avec le frigo ouvert en pleine nuit, enfin, tu vois, en train de pleurer toute sa vie parce qu'elle était blessée, heurtée, voilà, martyrisée. Et on se dit, putain, je l'ai senti, j'aurais dû te le dire. Dès le départ, j'ai senti que c'était pas OK. Donc, tous ces... Ah là là, je le savais, je l'ai senti, putain, ça m'étonne pas. Mais tu vois ça, j'aurais pu te le jurer. Dès que je l'ai vu, tous ces mots qu'on a dit, c'est parce qu'on, justement, fréquentiellement, on sait si c'est OK ou si c'est pas OK. Après, y a des millions de gens. Donc, si c'est pas OK, c'est pas grave. Je veux dire, on sera pas seul. Il y aura d'autres gens. Mais quand la place est occupée par quelqu'un avec, tu vois, qui va nous jalouser, qui va nous... Non, moi c'est hors de question. Alors j'ai mis beaucoup de gens comme ça autour de moi, hein, mais maintenant c'est hors de question, c'est plus possible. Qu'est-ce que je ressens quand je pense à mes potes? Qu'est-ce que je ressens quand je repense aux gens que j'aime? Ça c'est important. Et donc après, je construis une vie d'amitié avec eux, dans laquelle j'essaye sincèrement, profondément d'être, de les traiter comme j'aimerais qu'ils me traitent, quoi. Tu vois? Et puis de savoir qui ils sont. Et puis, évidemment, je vais apprendre des choses merveilleuses et puis je vais apprendre des choses moins merveilleuses, mais c'est pas grave. C'est, je sais plus qui dit ça. Nos amis, ce sont des gens qui nous connaissent bien et qui nous aiment quand même.
Pour des gens qui nous écoutent, qui se disent, OK, j'ai envie de bien m'entourer, est-ce que tu aurais d'autres conseils? T'en as déjà donné, donc traiter les autres comme on aimerait être traité, avoir ça en tête de ne pas juger, mais d'être dans nos ressentis. Est-ce qu'il y a d'autres choses?
En fait, j'aime bien l'idée que c'est pas grave. J'aime bien l'idée que c'est pas grave. En fait, les gens, quand ils décident de se faire un environnement qui va être bienveillant, etc., d'un seul coup, il y a « t'es OK, t'es pas OK ». Alors qu'en fait, pas du tout. En fait, il y a juste des gens et de façon tout à fait tranquille et heureuse, on va plus se rapprocher des uns que des autres. Parce qu'effectivement, comme il y a cette histoire de ressenti, on va voir qu'il y a des espaces où on s'entend super bien, où on se marre. Et ce sont des gens qu'on voit peu, ou ce sont des gens qu'on connaît pas, ou, tu vois, c'est presque même d'ailleurs, ça peut être les amis des amis, et avec lesquels on s'entend mieux qu'avec les amis où il y a quelque chose qui... Mais en fait, c'est juste, c'est comme ça. Et en fait, parce que on est capable d'accepter que ça puisse juste être simple, en fait, on ouvre un espace dans lequel ce type de relation est possible. Mais si on se dit « Ah ouais, mais je vais pas les fréquenter parce que ça va faire de la peine à mes amis, etc. » Non, en fait, tu peux dire à tes amis « Viens, on refait une bouffe avec telle personne. Franchement, c'était cool, on s'est bien entendu, c'était chouette. » Et en fait, si tes amis qui font le lien, ils sont jaloux de ça, faut leur expliquer « Non, on est tous amis, tu vois. » Et si vraiment ça crée un problème chez eux, oui, c'est moi qui te les ai présentés. Ça arrive tout le temps, ça. Bon, c'est pas grave, en fait. C'est OK, d'accord, c'est pas grave. Il y en a des millions d'autres, tu vois. Mais juste laisser les choses se faire, être tranquille avec ça, juste se soulager de l'idée que ça puisse être compliqué, que ça puisse créer des conflits, voilà, que ça c'est OK, mais que ça c'est pas OK, mais que si je fais ça c'est bien, mais c'est pas bien. Faut lâcher les enjeux, en fait. Faut lâcher les enjeux. voilà, que ça, c'est dans la relation amicale, mais c'est dans la relation amoureuse, en fait. C'est pareil, il faut lâcher les enjeux. C'est genre, oui, mais en même temps, c'est vrai que je suis avec telle personne, c'est vrai que c'est pas génial, génial, mais en même temps, on s'aime et tout. Non, non, mais moi, à un moment donné, j'ai renoncé à ça. Alors évidemment, ça fait une vie qu'on peut facilement me reprocher en disant, ouais, lui, il a beaucoup de nanas. Et non, non, j'ai pas beaucoup de nanas, moi, je cherche l'amour, en fait. Et en fait, bah, pour chercher l'amour, parfois, c'est comme quand tu cherches un trèfle à quatre feuilles, tu vois. Bah, en fait, il faut en regarder plein avant de trouver un trèfle à quatre feuilles. Et c'est ça. Et on va pas te reprocher d'avoir cueilli 300 trèfles à deux feuilles, tu vois. On va tu dis non, non, bah, en fait, voilà, quoi. J'ai essayé, je me suis, puis parfois, j'ai été nul, et puis parfois, j'ai pas su, et puis, mais tout a été une compréhension parce que j'ai du respect pour toutes les histoires que j'ai eues. Et voilà. Et maintenant, bah, mais parce que ma quête, elle est claire, moi. Ma quête, elle est claire, c'est qu'une relation à 98%, c'est pas ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Mais on n'est pas obligé de faire comme moi. Moi, je me suis donné deux quêtes importantes parce que je pense que ce sont les deux plus grandes leçons de mon âme. Tu vois, c'est que j'ai l'impression que mon âme est venue ici pour comprendre deux sujets. Et le premier sujet, c'est la relation avec la fluidité, avec l'énergie de l'argent. Et la deuxième, c'est la relation dans la fluidité avec l'énergie de l'amour, qui sont très proches l'une et l'autre. Mais je sais que ce sont ces deux sujets. Donc moi, j'ai décidé de travailler sur ces deux sujets-là. Et voilà, on me reproche pas de m'être planté 1000 fois avant d'avoir trouvé un petit succès, tu vois. Donc dans l'amour, pourquoi on me reprocherait de m'être planté 1000 fois, tu vois. Mais c'est vrai que là, ça fait plus jaser, ça c'est sûr. Mais voilà, en fait, moi je me dis, je sais non pas qui j'ai envie d'avoir en face de moi, parce que ça, c'est totalement aléatoire et c'est pas à moi de le juger. Mais je sais ce que moi, j'ai envie de pouvoir partager dans le couple. Je sais que ce que j'ai envie de... qui j'ai envie d'être. Et en fait, il y a des gens avec qui c'est possible, et il y a des gens avec qui c'est pas possible. Parce qu'en fait, les gens avec qui c'est possible, bah, ils sont peut-être très nombreux, mais avant de les trouver, il a fallu que je passe par des castings pas possibles. Peut-être d'ailleurs pour que je puisse apprendre, j'en sais rien. Tout était juste, c'était parfait. Je reproche rien à personne, c'était magnifique. Mais c'était pas suffisant pour moi. Donc, du coup, je prenais la leçon. Je prenais la leçon. Et je me dis, bon. Après, si on est avec quelqu'un et si on est en relation ou si on a déjà des amis, l'idée, c'est pas de les virer et d'en prendre d'autres. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai envie de partager avec ces amis-là. Qu'est-ce qui est OK? Moi, j'avais un groupe d'amis absolument génial dans lequel il y avait une sorte de relation tacite. En fait, il faut toujours savoir ça. C'est qu'on a un accord tacite et silencieux les uns avec les autres et chacun a un rôle. On le déclare pas, on n'en parle pas, mais tout le monde sait que chacun a un rôle. Et en fait, moi, mon rôle, c'était celui qui clashait, c'était celui qui jugeait, celui qui vannait. Donc, j'étais un espèce de mec que tout le monde voulait avoir dans les soirées parce que je déconnais, je foutais l'ambiance, etc. Et à un moment donné, moi, j'étais fatigué d'être ce type-là, ça me convenait pas du tout. Et je me suis dit, bon, il va falloir que tu remettes les choses en question. Et la première chose que j'ai décidé de faire, c'est d'arrêter de juger. Et comme on était dans un groupe où le jugement était quand même très, très présent et où moi, j'étais un immense représentant, presque même le porte-drapeau du jugement dans ce groupe-là, d'un seul coup, ça a fait drôle à tout le monde parce que les gens me reconnaissaient plus. Et je savais que j'étais en train de briser un pacte, je savais que j'étais en train de trahir et c'est moi, je savais. Et je prenais la responsabilité de me dire « Ok, je trahis le pacte et on va voir si ça tient ou si ça tient pas, c'est pas grave. » Et il y en a plein, donc déjà, ils se sont foutus de ma gueule, ils m'ont appelé Dalai Lama. C'était mon surnom pendant des mois. Ah bah tiens, il y a Dalai Lama qui va parler. Et je me disais, ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas. Et petit à petit, j'ai vu le groupe se diluer autour de moi. En fait, ils faisaient des trucs et puis après, j'étais plus invité nulle part. Et je me disais, c'est OK. D'ailleurs, j'ai plus été invité, non pas parce qu'ils sont sournois, mais parce que j'ai, un soir, on était en train de dîner en terrasse dans un restaurant. On était une dizaine, plus que ça même. Et en fait, ils ont commencé à se prendre la tête sur des choses politiques. Et en fait, je me suis levé et je me suis cassé. Et ils me disent, ouais, tu vas où? Je dis, non, en fait, moi, je suis venu pour être avec mes potes. Je suis pas venu pour être avec des gens qui ont décidé d'être des ennemis parce qu'il y a un truc qui se passe à la télévision, tu vois. Donc, foutez-vous sur la gueule. Pas de problème, mais je joue pas. Ciao, je suis parti. Et dans le groupe, il y avait ma meilleure amie qui est venue avec moi, qui m'a rattrapé en me disant, non, mais tant que ce sera pas bienveillant, je reviendrai pas. Et donc, du coup, comme ça n'était pas bienveillant, bah, je suis pas revenu, tu vois. Ils m'ont respecté. Ils ont respecté ma parole. Et donc, du coup, voilà, je me suis dit, maintenant, ça va être ça. Donc, ça a duré comme ça un temps pendant lequel je les voyais plus. Et petit à petit, ils sont revenus les uns derrière les autres en disant, ouais, est-ce que c'est OK pour toi si on parle, tu sais, dans mon couple, c'est compliqué, machin. Et en fait, ils avaient besoin peut-être d'un petit peu, justement, plus de jugement, un petit peu plus d'entente, d'écoute. Toute cette espèce de bienveillance, en fait, ils en avaient besoin. Et moi, en attendant, bah, j'ai rencontré d'autres gens aussi, sur lesquels, justement, avec lesquels j'avais ce genre de conversation que j'avais envie d'avoir. Mais c'est OK, tout est parfait. Et quand je les revois, parce que maintenant, je les vois quand même beaucoup moins, quand je les revois, je suis toujours très heureux de les voir. Mais c'est vrai qu'ils restent dans ce mood-là où ils sont capables de se juger entre eux alors qu'ils se disent très bons amis. Moi, ça ne marche pas très bien. Je suis mal à l'aise avec ça. J'ai pas envie. Ça me rend malheureux, donc je n'ai pas envie. Et en revanche, j'ai construit un groupe d'amis avec lesquels ça va merveilleusement bien, mais dans lesquels j'ai des surprises aussi. Tu vois, parfois, il arrive qu'il y en ait un ou une qui a une attitude que personne ne comprend. Mais on l'accepte. On l'accepte. On se dit, bah, puisqu'on est amis, un jour on saura, cette personne viendra nous dire. Et puis si cette personne a décidé qu'on n'était plus amis, bah, on n'est plus amis et on le respecte. Alors ça fait toujours un coup, parce que moi je suis toujours embarrassé par le fait de ne pas avoir l'information. Je ne sais pas pourquoi les choses se font et ça m'embarrasse. Mais après, c'est parfait. C'est ça, aimer les gens. C'est savoir les laisser partir quand ils ont besoin de partir. Hein, c'est ça. C'est savoir faire en sorte que... Bon, déjà, c'est savoir se débarrasser d'eux s'ils nous saoulent, mais c'est savoir aussi les laisser se débarrasser de nous. C'est ça, l'amour, en fait. Et moi, mon pote avec lequel j'ai été en conflit très fort, il est débarrassé de moi, visiblement, et je suis content, tu vois. Parce que visiblement, à juger son attitude, il avait un gros problème avec moi. Donc voilà, je suis bien. Bon, visiblement, il a toujours un gros problème avec moi, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui me disait qu'il disait de mal de moi en permanence. Mais c'est pas grave, il a toujours pas réussi à se débarrasser de moi, mais moi je vais réussir à me débarrasser de lui. Et j'ai dit d'ailleurs à cette personne-là qui me disait, voilà, je travaille avec lui tous les jours, il fait que dire du mal de toi, je te connaissais pas, même depuis que je te connais, je me dis, mais en fait, il y a rien qui est vrai dans ce qu'il dit. Je dis, mais écoute, c'est pas grave, c'est ton ami? Il me dit, ouais, bah alors respecte ce qu'il dit, écoute ce qu'il dit, et sois d'accord avec lui. Et c'est ça, c'est pas grave, c'est OK.
Wow, j'adore. C'est quelque chose que j'essaie de me répéter aussi parce que, alors je ne sais pas si c'est un trait qui est plus féminin en soi, peu importe, mais je sens que parfois j'ai de la culpabilité. Je me dis, ah, je devrais peut-être plus faire ça ou c'est pas cool de faire ça. Et en fait, c'est ça qui va faire que je vais me mettre dans des choses qui ne sont pas authentiques et qui ne sont pas honnêtes et qui ne sont pas saines. Alors que si j'invite le, bah, c'est OK et c'est la vie. Et en fait, d'être confortable avec ça, je sens que, bah, que ça me soulage. Et ça me fait un peu penser à... Bah, c'est un peu cliché, je ne sais pas ce que tu vas en penser, mais...
Allons-y.
L'amour est libre. Garder l'amour libre.
Ah oui, ce n'est pas cliché du tout, c'est très très beau. je trouve ça génial. Après, voilà comment certaines personnes interpréteraient l'amour libre, mais...
Oui,
oui non, mais l'amour est la liberté. L'amour est la liberté, c'est la liberté de soi, c'est la liberté des autres. Après, si on décide d'être libre dans la façon d'être des amoureux, ben voilà. Mais on peut aussi, moi je me sens totalement libre dans un couple où on est engagé ensemble et on fait le chemin ensemble. C'est pas l'amour libre comme certains pourraient l'interpréter. Je crois aussi que, alors je pense que cette culpabilité-là, elle est pas spécialement féminine. Je pense que moi, je la connais très bien. Et je pense que je suis pas spécialement féminin. Enfin, peu importe si je suis le deux, mais. Pas cette part-là qui joue, j'ai l'impression. Moi, je me dis que on peut aussi être maladroit et puis admettre, tu vois, admettre. C'est très important dans le couple, tu vois, mais dans la relation amicale, c'est très important. Moi, j'ai eu un moment très fort avec cette amie dont je parlais tout à l'heure, là, avec ma meilleure amie. Hein. Elle m'a rencontré, j'étais vraiment dans une situation financière compliquée. Et donc, du coup, j'avais beaucoup d'inquiétudes sur comment j'allais payer mon loyer, comment j'allais nourrir ma fille. Il y avait comme ça dans notre relation quelque chose qui était très... elle venait beaucoup m'aider, elle venait beaucoup me soutenir, etc. Il y avait un truc victime-sauveur, tu vois. Et après, je me suis dit, bon, si je veux vraiment réussir ma vie, si je veux vraiment avancer vers une vie plus confortable, il va falloir que je m'organise autrement parce que visiblement, je suis très fort pour être pauvre, mais je ne suis pas très, très doué pour être riche. Donc, je vais commencer à apprendre auprès de gens qui sont vraiment des gens qui ont réussi et je vais arrêter d'écouter les conseils de maman qui n'a jamais su mettre 500 balles de côté. Et j'ai commencé effectivement à acquérir des informations sur la conscience de richesse. Et là, je me suis dit, putain, c'est génial. Et j'apprenais. Évidemment, ça m'a passionné. Évidemment, je le partageais. Et un jour, elle me dit, depuis que tu t'intéresses à l'argent, tu changes, quoi. C'est comme si je te reconnaissais plus. Et bah, en même temps, je comprends. Et je lui dis, mais ça veut dire qu'en fait, tu préférais quand j'étais pauvre. Elle m'a dit oui. Parce qu'elle me dit, quand tu étais pauvre, ben, j'avais le sentiment de servir à quelque chose. Alors, là, on choisit. Qu'est-ce qu'on choisit, en fait? Est-ce qu'on choisit de revenir dans la pauvreté? Mais de toute façon, je le savais hein, que c'était à ça que ça tenait. J'ai eu des expériences où elle me demandait si ça allait bien et il se trouvait que je venais de gagner beaucoup d'argent avec un de mes contrats. Et en fait, mon compte en banque était 6 fois plus rempli que le sien. Mais j'ai dit non, c'est compliqué, c'est difficile. Parce que je savais que ça tenait à ça. Et je me voyais en train de dire ça. Je me voyais en train de mentir simplement pour préserver le lien. Donc, quand le lien il a été éclairé comme ça à travers cette conversation, ben, je me suis posé la question de savoir est-ce que ça allait continuer à l'intéresser d'être toujours ami avec moi? Est-ce que ça allait continuer à m'intéresser aussi d'être avec quelqu'un qui cherche absolument à être mon sauveur? Et en fait, on a accepté tous les deux que ça pouvait faire varier la... Je dis, bah oui, mais en fait, au fond de toi, vraiment, est-ce que tu préfères quand je suis pauvre et que je galère et que voilà, en dehors de notre relation? Ou est-ce que tu préfères que je puisse un jour payer une super école à Lila, vivre dans un endroit vraiment mieux? Elle me dit non, mais c'est sûr que je préfère ça. Je préfère que tu sois plus heureux. Donc je dis moi, je vais continuer à aller vers ça. Et puis après, ben si on continue de se fréquenter, c'est génial. Et puis si ça s'arrête là, ben, c'est génial quand même. Tu vois? Mais je lui dis avant que peut-être on parte chacun dans une voie. Je te remercie du fond du cœur. Tu m'as apporté tellement de choses. Tu as été tellement précieuse pour moi et tout. On s'est pris dans les bras. Voilà. On s'est fait des déclarations d'amitié. Et après, on a continué. C'est vrai que nos chemins sont allés comme ça. Mais il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de problème. On a le droit de dire aux gens, je suis embarrassé. On a le droit de dire aux gens, je ne sais pas quoi faire. Je vois ta détresse, mais je ne sais pas comment réagir parce que moi, je trouve que peut-être ta détresse, elle n'est pas justifiée. Je trouve que tu te racontes beaucoup d'histoires ou tu te noies dans un verre d'eau. Mais c'est mon truc, enfin, c'est ma façon de voir les choses. Et si j'étais à ta place, peut-être que c'est moi, effectivement, qui pleurerais sur le canapé et qui boufferais tous les mouchoirs de la maison. Mais là, je n'arrive pas. Et je suis désolé de ça. Je suis désolé de ça. J'aimerais pouvoir t'aider mieux. Ça, j'allais dire, j'aimerais pouvoir t'aimer mieux. C'est ça. J'aimerais pouvoir t'aimer mieux que je suis capable de le faire là maintenant. Et on peut, c'est ça aussi être ami. C'est pas être toujours là pour aider les autres, c'est parfois accepter qu'on ne peut pas, qu'on sait pas faire, simplement. Donc voilà, oui, l'amour est libre, quoi. Libre d'aller, venir, libre d'être maladroit, libre d'être sûr de lui, libre. Il est libre, quoi.
Tout à l'heure, quand tu parlais, il y a plein de choses que sur lesquelles j'aimerais revenir, mais je vais essayer de me concentrer un peu. Il y a vraiment un truc qui m'a... Je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose. Tu as dit, je sais ce que j'ai envie de partager, je sais qui j'ai envie d'être dans une relation. Et quand tu as fait ça, t'as touché ton corps. Est-ce que tu peux nous parler de cette importance de savoir en soi ce qu'on a envie de partager, alors que ça soit pour nos relations amicales, mais peut-être aussi pour nos relations romantiques? Et la deuxième phrase que tu as ajoutée vraiment juste après ça, c'est « je sais qui j'ai envie d'être ». Est-ce que tu pourrais nous expliquer plus ça?
Oui, j'ai posé la main sur ma poitrine, parce que la poitrine, c'est là où il y a les poumons et le cœur, c'est l'amour de la vie, les poumons, et l'amour des autres, le cœur. Oui, je sais qui j'ai envie d'être, en fait. J'ai envie de partager des relations avec mes amis, qui sont des relations à travers lesquelles je peux faire l'expérience de moi dans une immensité, dans une unité totale avec l'autre. Bon, pour des tas de raisons hein, personnelles, moi j'ai perdu un jumeau, donc c'est il y a des trucs dans les gènes où t'as besoin comme ça de, il y a une notion d'unité que j'ai dans mes gènes et avec laquelle je travaille, même spirituellement, je travaille toujours avec l'unité parce que ça me parle fort. Maintenant, on ne fait jamais que l'expérience de soi. Les gens ont toujours le sentiment qu'ils sont en train de faire l'expérience d'un travail ou l'expérience d'une relation, l'expérience de... Non, non, on fait que l'expérience de soi dans le travail, de soi dans une relation, de soi au milieu des potes. Moi, j'ai pas envie d'être le pote qui critique les autres. J'ai pas envie d'être le pote qui lorgne sur la copine de mon pote. Tu vois, j'ai pas envie d'être ce mec. J'ai pas envie d'être un amoureux qui se méfie. J'ai pas envie d'être un amoureux qui reproche, qui regarde, qui machin, qui pinaille. Ah bon, tu étends les chaussettes comme ça. Dis donc, franchement, ça risque pas de sécher si tu fais ça. J'ai pas envie d'être ce mec, en fait. J'ai envie d'être un mec dans le respect, dans l'ouverture. J'ai envie d'être dans l'amour. J'ai j'ai pas envie d'être ce mec qui se retient de dire je t'aime parce que il y a une menace derrière, tu vois. J'ai envie d'être ce mec qui peut se sentir libre de le faire, libre de pas le faire, qui se sent bien. Et puis surtout, quand je suis avec l'autre, avec mon ami ou avec mon amoureuse, ce que je vais proposer, c'est-à-dire ce que je vais vraiment mettre là dans l'espace commun, c'est de l'attention, c'est de l'écoute, et puis c'est de la compréhension, et puis c'est surtout aussi quelque chose de plus, je sais pas comment expliquer ça, peut-être de plus indulgent, tu vois ce que je veux dire, c'est l'indulgence en fait, c'est oh là là, désolé, je t'ai dit ça, non mais t'inquiète pas en fait, je sais qui tu es, enfin je, tu vois, c'est indulgent avec soi, indulgent avec l'autre. Tu vois, l'autre se retourne, fait un mauvais mouvement, c'est pas boum, une tape. Je vais pas dire ah merde, putain, fais attention. Tu vois, je dis non, je sais que c'est pas fait exprès. On fait l'amour ensemble, on dort ensemble, partage la salle de bain, etc. Je veux dire, pourquoi cette personne me voudrait du mal? Et donc je pars de ce principe d'être justement, de mettre dans la relation quelque chose qui est juste du respect et de la confiance, tu vois, de la confiance, régler mes problématiques. Cette personne qui est en face de moi n'est pas la femme avec laquelle j'ai un problème, tu vois. Si j'ai un problème avec cette femme-là, je suis en train de me tromper. Parce que la femme avec laquelle j'ai un problème, c'est celle qui a causé le problème quand j'étais gamin, mais c'est sûrement pas celle qui est en train de dire qu'elle m'aime. Tu vois, et mes amis, c'est pareil, en fait. Quand j'ai un problème avec mes potes, ils ne sont pas l'homme avec lequel j'ai un problème. Si j'ai un problème avec ce mec-là, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose qui a été brisé dans mon enfance qui fait que j'ai pas confiance aujourd'hui. Donc, je vais aller régler mes problèmes en dehors de mon couple, en dehors de ma relation amicale, et je reviens propre, neuf et nettoyé, prêt à vivre quelque chose qui est OK. Et en fait, toutes les relations que j'ai eues avant sont des relations où j'ai vu à la fois tous les endroits où, et j'en prends la responsabilité, j'ai merdé. Mais parfois j'ai merdé, c'est-à-dire que j'ai pas réussi à être correct moi-même parce que j'ai répondu à des choses qui sont de l'ego. Mais parfois, là où j'ai merdé, c'est de m'entourer aussi de personnes qui sont malveillantes. Pourquoi ? Parce que je reconnais dans leur façon de faire un schéma que j'ai vécu toute ma vie, en tout cas toute mon enfance, d'abus et c'est du profitage quoi. Donc, mais c'est moi qui ai fait ce casting-là, c'est personne d'autre. Hein. Je veux dire, on m'a pas mis un fusil sur la tempe en disant tu sortiras pendant 2 ans avec cette personne qui va abuser de ta confiance, qui va abuser de ton argent, qui va abuser de tout. Non, c'est moi qui suis allé la chercher, c'est moi qui suis sorti avec, c'est moi qui l'ai mis dans mon lit, c'est moi qui l'ai mis à déjeuner à table avec moi. Enfin voilà. Et 2 ans plus tard, quand je suis en train de pleurer parce que je me rends compte qu'en fait j'étais abusé sur absolument tous les domaines de ma vie, c'est-à-dire qu'elle est venue grappiller chez mes clients en me disant à moi oui mais c'est pas normal, moi je veux vraiment avoir ma propre clientèle, et pendant ce temps elle piquait la mienne qui disait oui non mais nous on est un couple engagé, en fait on est ensemble et on est fidèle, et puis qui allait coucher avec partout ailleurs, et qui disait ouais non mais de toute façon c'est important les amis, puis qui disait à mes amis de ne pas me dire ça ou de me dire ça. Enfin, quand 2 ans plus tard tu te rends compte de ça, moi la responsabilité je la prends à 100%. Je dis pas cette personne elle est pas OK, je dis cette personne elle est parfaitement OK pour quelqu'un d'autre, mais moi l'abus comme ça j'en veux plus, donc j'arrête de le faire rentrer dans ma maison. Et c'est ça la réponse. Pendant que on s'est séparés en été, j'ai passé un été en enfer. En enfer, Anouk. Vraiment, j'étais tellement mal. Et en septembre, mi-septembre, un de mes merveilleux amis qui s'appelle François, il vient à la maison et il me dit « Et toi, alors ça a été cet été ?» Je lui raconte. Je lui raconte que j'ai été dévasté. Et François me dit « Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé, quoi ?» Je lui dis « Pas parce que si je t'avais appelé, François, tu m'aurais dit une parole de sagesse. » En fait, je n'ai pas besoin d'une parole de sagesse. J'avais besoin de prendre conscience de ma capacité à me tuer moi-même. Toi, tu seras arrivé comme une espèce de pastille fraîche qui fait du bien quand on a le corps qui brûle. Mais moi, j'avais besoin de laisser brûler mon corps. T'aurais été, je te connais, t'es trop intelligent. Je te connais, t'aurais trouvé les mots. Et en fait, j'aurais remis ma remise en question à plus tard. Donc là, je me suis bien enfoncé dans mon délire, j'ai bien pris conscience que c'était bien moi, j'ai repris chaque moment en disant c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui l'as choisi. Donc maintenant, qu'est-ce que tu as envie ? Tu as envie de recommencer ce genre d'histoire ou pas ? Et en fait, ça a été, et merci à elle, ça a été une charnière très très importante dans ma vie, parce que j'ai compris que ben, maintenant, dès que je débusquais l'abus, et ben, je pouvais réagir. La relation d'après a été une relation d'abus aussi, tu vois ? Mais c'était autre chose. Déjà, ça a duré 6 mois, ça n'a pas duré 2 ans. Mais pendant 6 mois, j'ai absolument rien vu. Et 6 mois plus tard, on m'ouvre les yeux et je dis, ah, ok. Elle m'ouvre les yeux et je dis, ok, d'accord, très bien. Encore réabuser une nouvelle fois. Donc maintenant, je connais l'abus dans la forme, mais je connais aussi l'abus quand elle n'a pas de forme. Donc c'est presque énergétique. Est-ce que je sens ou est-ce que je sens pas? Est-ce que j'écoute ou est-ce que je n'écoute pas? Je suis fort de ces relations-là et je construis à un moment donné une relation avec quelqu'un que je sens merveilleusement disposé à vivre une belle histoire. Donc dans le fond, je sens, je ressens et que je vois merveilleusement disposé à vivre une belle histoire. C'est-à-dire que dans son attitude, cette personne est dans le partage, dans la joie, dans la volonté de plaisanter, etc. Et c'est une histoire incroyable. Et c'est une histoire magnifique. Et peu importe qu'elle dure pas, c'est pas grave. C'est que j'ai la possibilité enfin de livrer tout ça fort des apprentissages que j'ai eus hier, avant-hier et tous les autres jours, tu vois. Mais c'est ça en fait. C'est je m'en fous de. Les gens ils disent ouais, moi je veux un mec comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je dis mais avant de vouloir être aimé, est-ce que toi-même tu es aimable? Est-ce que toi-même quand tu te vois dans la relation, tu es aimable? Est-ce que toi tu aimerais vivre avec toi-même? Moi, je me suis posé la question tous les jours hein, pour me juste dire, mais non, putain, arrête. Si je vivais avec moi, je trouverais ça débile ce que je fais là. Si je vivais avec moi, je trouverais ça odieux, cette attitude. Je trouverais ça bizarre, cette intention. Pourquoi, tu vois? Donc, c'est quoi être aimable pour toi? Comment tu as envie d'être aimable, en fait? Et tout ça, bah, ça va chercher ton authenticité, ça va chercher ta complicité, ça va chercher toi-même. Et du coup, t'es tellement beaucoup plus toi, puisque t'es pas dans le contrôle de l'autre, et puis t'es pas dans ton contrôle à toi. Tu dis en fait, parce que de toute façon, hein, on arrive à ça. Hein, notre façon d'aimer, elle est primaire, elle est spontanée. Donc on revient, elle est totalement authentique. On revient à l'authenticité de fou, quoi. On est là, on se dit. Ben voilà, moi j'ai envie de déconner, le matin je déconne, je fais le con, je fais des imitations, mais je peux passer un repas. D'autre fois, on était allé au déjeuner avec une copine et sa fille, et en fait j'étais en train de les amuser en faisant l'accent du Québec, et la serveuse arrive, et elle dit « Ah, le Québec, j'adore » et tout. Et du coup je me suis dit « Soit je fais pas l'accent et du coup elle se rend compte que c'était une blague et elle est ridicule. Soit je continue de faire l'accent. Donc je continue de faire l'accent et toi elle me dit vous avez commandé? Non, pas encore, je vais faire ça. Et en fait elle s'en va et je me dis merde. Mais en fait je viens de me foutre dans la merde. C'est que si maintenant j'arrête de faire le truc, eh bien elle va revenir, elle va se rendre compte c'est d'elle je me suis foutu. Et donc du coup à chaque fois qu'elle venait, je parlais avec l'accent du Québec et mes copines étaient mortes de rire. Tu vois, mais j'ai envie de faire ça, ça m'amuse, c'est léger, c'est con, c'est débile, peut-être on trouvera ça débile, mais je m'en fous. C'est ma façon à moi d'être le pote qui déconne, le pote qui plaisante et qui fait rire la galerie. C'est ma façon à moi, voilà.
Déjà, merci pour tout ce partage qui est aussi de ta propre histoire. Je voulais savoir comment est-ce que tu fais pour naviguer entre, par exemple, si tu as été trahi dans ta dernière relation et là que tu te mets dans une nouvelle relation. Comment est-ce que tu fais pour faire la différence entre « je sens qu'il pourrait y avoir trahison et je sens que la personne n'est pas safe » et « je porte encore le trauma et du coup, je vais saboter parce que je porte encore ça » Est-ce que tu vois la nuance? Parce que je connais des amis qui sont dans ce questionnement et qui galèrent un peu à naviguer là-dedans.
J'aime bien l'idée de naviguer. Mon bateau n'est pas le bateau de l'autre. C'est-à-dire que la personne qui arrive est une personne qui a une autre éducation, une autre culture, peut-être une autre religion, peut-être d'autres façons de faire. Elle a une autre expérience de la vie, elle a une autre expérience du couple. De quel droit, juste une question, de quel droit moi, je vais lui imposer mes démons? Tu vois, je veux dire, ça va, elle n'en a pas déjà suffisamment? De quel droit moi, je vais lui imposer mes démons? Donc, si je fais ça, je ne peux jamais évoluer. C'est impossible, en fait. Je dois renoncer à tout ce que je crois être la relation de couple et me relancer dans une histoire à travers laquelle je vais tout réinventer. Je vais tout recommencer. À commencer par moi, ma façon d'être. Je vais chaque fois être plus authentique. Mais surtout, je vais pas arriver avec mon sac d'emmerdement, de conclusions hâtives, de jugements sur les femmes, l'amour, le truc, le sexe, le machin, le truc, et balancer ça au milieu du salon en disant voilà, soyons heureux. Ben non, c'est pas possible en fait. Pour ça, pour que je puisse vivre une relation heureuse, ce sac-là, soit je le traite tout seul avec mon hypnothérapeute, mon psy, mon kinésiologue ou je ne sais pas quoi, c'est là-bas que j'ouvre le sac et c'est là-bas que je traite. Mais ici, je ne traite pas. Ici, je ne suis pas le coach de l'autre. Ici, je ne suis pas le père de l'autre. Ici, je ne suis pas l'ami de l'autre. Ici, je suis son mec, je suis son amant. C'est avec moi qu'il y a des relations intimes. C'est avec moi qu'on va se découvrir dans l'espace magnifique de la sexualité. C'est avec cette personne que je vais développer des complicités que je n'ai pas, même avec mes enfants. Et voilà. Et c'est ça que je suis venu partager. Je ne suis pas venu faire payer à quelqu'un les déboires que j'ai eus dans ma vie. Si j'ai eu des déboires dans ma vie, c'est mon problème. Ce n'est pas le problème de l'autre. Mais je vois ça, hein, je vois ça. Hein. Et puis, tu sais, une fois, j'avais un de mes amis qui venait de se faire plaquer, en fait, qui était extrêmement triste. Et je lui dis, bon, écoute, il était en train de me pourrir l'ambiance dans la maison. Je lui dis, bon, écoute, viens, on va se balader et tout. Et il avait que ça, que cette histoire dans la bouche. Ouais, mais tu te rends compte, machin. Et en fait, je me dis, ouais, tu vois. Et c'est comme ça. Je lui dis, bon, allez, viens, on va. Donc, je sais qu'il aime la musique. Je lui dis, tiens, il y avait un grand magasin de disques à côté de chez moi. Je lui dis, tiens, on va aller là-bas. Donc, on arrive, c'est vraiment un grand magasin type Fnac, machin. Et à un moment donné, on était à côté d'un bac où il y avait plein de disques un peu fourre-tout comme ça. Et en fait, j'étais en train de regarder, et puis lui, il était là, ouais, machin. Et en face de nous, il y avait deux nanas. Et je lève les yeux et je vois, il y en a une qui l'écoute, qui me regarde, et qui dit, mais, tu vois. Et donc, on repart et tout, puis à un moment donné, elles étaient encore à côté de nous, on repart dans la même direction. Et pareil, d'un air de dire, mais je dis, bah, il est triste, quoi, tu vois. Elle s'arrête comme ça, elle me dit, ok, il est triste. Mais j'ai une question. Il y a mort d'homme? Mon pote, ça l'a arrêté tout de suite. Il n'y a pas mort d'homme. Ok, bon, bah ça va, t'effaces, tu recommences, quoi. C'est avec ça que tu vas te trimballer. Maintenant, tu as décidé que c'est ça. Elle lui dit ça, quoi. Maintenant, c'est ça. Tu vas te trimballer avec ça, en fait. Et tu vas l'amener chez ton pote, tu vas l'amener chez ta nouvelle meuf, tu vas l'amener partout. C'est ça, en fait. Écoute-moi, tant qu'il n'y a pas mort d'homme. Et elle s'en va. En silence, on va jusqu'à la caisse, on paye notre truc et mon pote me dit, putain, elle a raison, il n'y a pas mort d'homme. Allez, terminé. Tu vois, c'est à un moment donné, il faut savoir se soulager de ça, tu vois. Et puis, il faut savoir arrêter d'accuser les autres aussi. Oui, il a fait ci, il a fait ça, et machin. Oui, il y a des gens qui ont été battus. Oui, il y a des gens, ok, mais bon, voilà, c'est toi qui as choisi d'aller chez ces gens-là. Traite la faille qui fait que tu attires ces mecs-là. Moi, j'avais une amie que je vois un jour. Enfin, c'est pas une amie, c'était quelqu'un que je connaissais dans le travail. Et je la vois un jour, elle avait des lunettes de soleil. Puis, je vois un bleu qui dépasse. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et toi, elle me dit, ah, mais c'est parce que David, machin, là, là. Je dis, putain, mais David, il tape dessus. Elle me dit, oui, mais... Tu es OK, d'accord. Tu sais quoi? Je connais un mec génial. D'ailleurs, c'est marrant, je faisais référence à ce mec-là qui pleurait là. Je dis, je connais un mec génial. Il est beau, il est intelligent, il est vraiment génial, ce mec, tu vois. Et il est vraiment tout en douceur. C'est vraiment un mec super, tu vois. Si tu veux, je te le présente. Elle me dit, ouais, ça cache quoi? Et, tu vois, je veux dire, comment tu veux te débarrasser des mecs qui te tapent sur la gueule parce que dès que t'en vois un qui pourrait être gentil, tu penses qu'il cache quelque chose. C'est vrai, tu as raison. Si tu pars de ce principe-là, alors il vaut mieux sortir avec quelqu'un qui annonce la couleur déjà en étant désagréable dès le début, tu vois. Plutôt que d'être avec quelqu'un qui va être hyper doux, mais où tu vas te dire tout le temps, ah, quand est-ce que ça va me tomber dessus, quand est-ce que ça va me tomber dessus. Oui, c'est vrai, de ton point de vue, il vaut mieux aller voir des mecs comme David qui te tapent sur la gueule. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres mecs super bien qui cachent rien. Ça cache rien, en fait. Et donc, voilà, à un moment donné, il faut savoir lâcher ces histoires d'hier et se dire, bon, voilà, je me réinvente dans une nouvelle histoire. Qu'est-ce que je veux vraiment vivre? Pas qu'est-ce que je veux vivre ou avec qui je veux vivre. Qu'est-ce que moi, je veux vraiment vivre? Qu'est-ce que je veux vraiment ressentir dans la relation? Qu'est-ce qui me plaît de vivre quand on est ensemble et qu'on se marre? Est-ce que j'ai envie d'être ce type qui rigole? Est-ce que j'ai envie de... C'est ça. Et en fait, moi, j'ai eu un client absolument génial. Il est venu me voir et il me dit, écoute, Laurent, c'est terrible pour moi parce que je suis très, très amoureux de ma femme. Mais tu vois, encore ce matin, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit, je t'aime. Et j'ai pas su lui répondre. J'arrive pas. Et pourtant, je l'aime. Je pourrais le hurler, mais je voudrais le hurler. Ça marche pas. Je dis, OK, d'accord. Et bon, on va régler le trauma qui est avec toi parce que cette personne n'est pas la personne avec laquelle tu as un problème. La personne avec laquelle tu as un problème, elle t'a traumatisé il y a très longtemps et on va aller la chercher, tu vois. Et en fait, on a réglé ça, on a réglé son traumatisme qui le figeait dans ces situations-là, hein, système nerveux autonome, hein, on connaît le principe. Et en fait, comme il était plus tranquille, eh bien, il a commencé à pouvoir le dire. Et puis voilà, mais pour moi ça c'est exemplaire. C'est on arrête de conserver le problème dans le couple ou dans la relation amicale, on sort de ça, on va bosser avec des professionnels et on revient neuf, nouveau, ou on peut réessayer. Ça marche toujours pas, c'est pas grave, allez, on va encore nettoyer et puis quand on revient. Voilà, c'est ça, c'est pour moi, il est là le courage dans le couple.
OK, merci. Et ce concept de responsabilité, c'est quelque chose qui revient. J'avais aussi envie de le remettre en lumière parce que dans ce que tu partages, c'est voilà, OK, il s'est passé ça. Quelle est ma part de responsabilité? Et en fait, c'est ça qui, par exemple, quand tu as partagé ton expérience là avec cette femme, qui t'a permis d'avancer dans quelque chose de constructif.
Ouais. Alors, ça plaît pas toujours à tout le monde. Il y a même des gens qui trouvent ça totalement malsain de dire... L'exemple, c'est quand je dis « Ok, très bien, cette situation te fout en rogne, mais intéressons-nous à cette rage, tu vois. Ah oui, c'est toujours de la faute des gens. » Non, enfin, je veux dire, dans ce cas-là, fais pas un travail de remise en question, rage chez toi, tu vois. Mais si tu viens dans mes programmes, il va falloir qu'à un moment donné, tu prennes la responsabilité que cette colère, elle t'appartient, surtout si tu veux grandir. Donc oui, il y a des gens, ça leur plaît pas, et moi, je leur dis « Bah, reste pas dans le programme. » Si tu fais un programme et tu supportes pas qu'on te dise que tu es responsable d'avoir choisi un casting bidon qui fait que tu es avec un mec ou une nana nulle qui te fait chier, bon, bah faut pas rester ici parce que tu vas pas aimer, tu vas être malheureuse, tu vois. Et moi aussi, d'ailleurs. Donc oui, la responsabilité, pour moi, c'est un principe de base. Mais c'est quelque chose que, voilà, dont il faut... Enfin, je pense qu'il n'y a pas de travail de remise en question ou de transformation à partir du moment où on n'a pas suffisamment d'intelligence, parce que pour moi, c'est vraiment ça, ou de bon sens pour se dire, OK, la première chose que j'ai à faire, c'est comprendre que je suis responsable de ce que j'ai créé dans ma vie. Où je vis? Est-ce que ça me va? Oui, non. Bon, alors, oui, mais en même temps, les trucs de la vie ont fait que... Non, mais ça, tu penses ça si tu veux. Si tu viens travailler avec moi, on va pas voir les choses comme ça. C'est pas de la faute de ta mère ou de la faute du gouvernement ou de la faute des allocations. C'est qui tu es toi et comment tu as construit ta vie, c'est quoi tes principes, c'est quoi tes schémas. Et prends la responsabilité que cette situation, c'est intégralement toi qui l'as créée, y compris tes amis, tes amours, etc. C'est toi qui l'as créée, y compris la relation avec ta famille, la relation avec tes frangins, etc. C'est toi qui l'as créée. Maintenant, parce que tu vas pouvoir partir de ce principe, tu vas pouvoir évoluer. Si tu prends pas ta responsabilité là-dessus, tu vivras toujours avec le sentiment que les autres, tu les subis et qu'en fait, finalement, tu n'as jamais le choix. Mais si tu viens faire un travail de remise en question, alors il est capital que tu comprennes ça. C'est capital que tu partes du principe de responsabilité. Sinon, bah, voilà, continuons de dire que c'est la faute de ta mère et puis tout va bien. C'est pratique.
Ouais. J'ai encore quelques questions pour toi.
Je t'en prie.
Il y en a une, c'est par rapport... à comment est-ce que tu fais pour recevoir des conseils dans le sens où tu nous en as parlé avant. Parfois, il y a des amis qui peuvent te dire « ça, je le sens moyen », mais aussi il y a des amis qui peuvent nous donner des conseils. Parfois, moi, j'ai reçu des conseils où je me dis « attends, est-ce que j'ai vraiment envie de recevoir des conseils de cette personne ?» Et en même temps, parfois, je suis démunie, donc je me dis « ah, je ne sais plus vers qui me tourner ». Comment est-ce que tu fais, toi, pour gérer ça ?
Moi, je me demande quelle expérience j'ai envie de vivre, en fait. J'ai des tas de potes qui peuvent être, le pote François dont je parlais tout à l'heure, qui est d'une grande finesse, c'est un grand sage. Donc, il peut aussi avoir des conseils très pertinents. Mais moi, je me demande quelle expérience j'ai envie de faire. Ce n'est pas forcément la même expérience que lui, il ferait. Mais quelle expérience j'ai envie de faire, moi ? Est-ce que c'est quand même OK pour moi de tenter quelque chose qui puisse être risqué du point de vue relationnel, affectif ou autre chose, tu vois ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Est-ce que j'ai quelque chose à apprendre à faire ça ? Bah oui, bien sûr, j'ai quelque chose à apprendre à faire ça. Donc, je vais le faire. Et je peux lui dire, ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison. Je pense que c'est largement possible ce que tu dis. C'est l'hypothèse est mais valable. Mais j'ai envie d'essayer quand même. Tu vois, comme quand je saute en parachute, parce que voilà, j'ai fait ça deux fois, je me suis éclaté. Et les gens, ils disent, oh putain, mais non, fais pas ça et tout. Mais oui, bien sûr, t'as raison, en fait. Je peux aussi ne pas le faire. Mais qu'est-ce que moi, j'ai envie de vivre comme expérience ? Est-ce que ça m'éclate de monter à 400 ou 500 mètres en avion et de me jeter dans le vide ? Est-ce que ça m'éclate, oui ou non ? Voilà. Est-ce que les enjeux, je suis capable de les accepter ? C'est-à-dire, je prends ma responsabilité. C'est-à-dire, je fais ça et en fait, toutes les conséquences heureuses ou fâcheuses, je les assumerai. Oui ou non ? Bah oui, bon, laisse-moi faire le truc. Et après, voilà. Après, il y a des... Relationnellement, je pense que en faisant ça, je me suis vraiment de plus en plus orienté vers des relations qui sont vraiment heureuses. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a personne autour de moi qui vit avec moi des relations, en tout cas avec qui je vis des relations qui sont fâcheuses, quoi. Je veux dire que même si il y a un bouleversement dans le cercle amical, c'est OK. Et si ce bouleversement, il vient chercher des choses chez moi où je sens qu'effectivement, il y a une animosité, bon, bah, ça s'arrêtera là, c'est pas grave. Et la personne ne sera jamais jugée pour ça. Elle sera toujours considérée et aimée pour ce qu'elle a partagé avec moi pendant des années. Et je garderai toujours ça. Parce que c'est ça qui prime. Mais si la personne décide d'un seul coup, je sais pas pour quelle raison, même si ça peut être une rumeur ou un truc qui fait que, et qu'elle décide d'un seul coup qu'on n'est plus amis, OK, on n'est plus amis. Donc voilà, donc les conseils, je les entends, tu vois, je les entends, je les prends pour ce qu'ils sont. Mais après, est-ce que moi, ça m'intéresse? Est-ce que moi, ça m'intéresse? Et est-ce que j'ai envie de faire cette expérience? Des fois, parfois, on m'a dit, tu sais, cette expérience, je pense que c'est quand même droit dans le mur, hein, tu vois. Cette nana, c'est droit dans le mur. OK, très bien, bah, ce sera droit dans le mur. Et je verrai comment je suis capable de gérer le mur. Je verrai comment je suis capable de gérer la douleur. Je verrai, mais il y a un truc qui me donne envie de vivre. Tu sais, il y a un film qui est mon film fétiche qui s'appelle Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est un film absolument extraordinaire, écrit par Richard Kaufman, qui est un scénariste fabuleux. Et ce film, il raconte une histoire très simple. Alors, c'est un peu difficile à pitcher, mais c'est très simple. C'est l'histoire d'un mec qui retrouve son ex, et en fait, elle ne le reconnaît pas. Et il se rend compte, enfin, il apprend par leurs amis communs, qu'elle s'est fait opérer et qu'elle s'est fait retirer la part de mémoire de son couple avec lui parce qu'elle en a trop souffert. Et lui, il est tellement dérangé par ça qu'il décide de se faire retirer la part de mémoire de l'histoire avec elle pour plus souffrir de ça. Et ils se re-rencontrent. Donc, ils ne se souviennent pas l'un de l'autre, mais ils retombent amoureux l'un de l'autre. Mais les amis autour, ils savent. Et donc, ils leur disent, « Faut que je te dise un truc, tu t'es fait opérer de la tête pour retirer l'espace de mémoire tellement la relation, elle a été pourrie et tellement elle t'a fait du mal. » Et je spoil. Et ils restent ensemble quand même. Et ça me fout une émotion, ce truc. Je trouve que c'est absolument génial. Je trouve que c'est une question posée qui dit, si tu savais par avance que cette histoire-là allait être une histoire qui allait te mettre par terre, mais que tu allais vivre une des plus belles histoires d'amour de ta vie, tu y vas quand même ou tu y vas pas? Et la réponse de Kaufman, c'est on y va. J'y vais quand même. Et c'est très, très, très beau. C'est un film avec Jim Carrey qui est tellement, tellement, tellement fabuleux. Pour moi, c'est vraiment le seul, enfin, c'est un des seuls vrais films qui parle fondamentalement de l'amour. Bah voilà, parfois c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre moi et pas c'est quoi les conseils des autres. Ils sont apparemment plus éclairés que les miens.
Trop beau, merci. It's worth it. Love to love is worth it.
Ouais.
Mes petites questions de fin, disons, c'est par rapport au couple. Ça serait quoi pour toi les choses à ne pas faire dans notre couple? Les big no-nos, vraiment les choses où tu dis non, là, faut pas faire ça, ça envoie le truc au carton direct.
En fait, je pense qu'on le sait en nous, qu'on a des attitudes qui vont être des attitudes destructrices, tu vois. C'est un petit notre côté mortifère qui vient foutre sa merde dans le couple. Dire je vais me jeter sur le moindre petit mot pour dire ah ouais, qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors qu'en fait, on est en face d'une maladresse ou d'une mauvaise interprétation. Et en fait, on sait qu'on est en train de mettre l'autre dans un espace où on va pouvoir lui casser la gueule. Pour moi, ça, c'est hors de question. Ça, c'est hors de question. Je ne profiterai pas de quoi que ce soit qui pourrait me permettre d'être plus fort ou de montrer ma supériorité. La deuxième chose qui est, pour moi, vraiment pas rédhibitoire, mais quand même, ça a un côté mauvais goût, c'est d'imaginer qu'en fait, j'ai la vérité sur la vie commune. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut faire les choses, c'est comme si, c'est comme ça qu'il faut étendre le linge, c'est comme ça qu'il faut ranger la vaisselle, c'est comme ça que machin, comme ça, truc. Si tu prends la responsabilité d'ouvrir ta porte à quelqu'un, alors tu prends aussi la responsabilité de ne pas forcément fonctionner de la même manière. À partir du moment où tu crois que le job, c'est de casser les couilles à cette personne parce qu'elle ne fait pas les choses de la même manière, je pense qu'il y a des raisons qu'il faut... Enfin, en tout cas, je pense que c'est intéressant de se poser la question de savoir qu'est-ce que tu penses de l'amour vraiment et si tu y es vraiment. Parce que je pense que c'est absolument pas aimer l'autre que d'essayer de nier ou renier tout ce qu'il est, simplement parce que toi, tu as fait les choses autrement ou parce que ta maman, elle t'a appris à mettre 200 grammes de farine dans un gâteau au lieu de 250, tu vois. Non, non, on doit aussi apprendre comment l'autre fonctionne et l'accepter. Et il y en a plein hein, qui me disent « Ouais, mais moi, mon mec, il fout le bordel dans la maison. » Ok, c'est pas ton mec. C'est toi qui as décidé d'ouvrir la porte à ton mec qui fout le bordel dans la maison. Donc, plutôt que de vouloir changer ton mec, qu'est-ce que tu peux changer chez toi, tu vois ? Qu'est-ce que tu peux changer chez toi ? Alors ça, c'est toujours pareil. Hein. C'est dans le cadre où je suis en face de quelqu'un qui veut changer. Si c'est quelqu'un qui veut juste se plaindre de son mec, allez, il va plaindre-toi, tu vois. Et tu trouveras ça et puis plein d'autres raisons. Mais si tu veux vraiment changer quelque chose, on va pas lui apprendre à ranger ses affaires. On va t'apprendre, toi, à être OK avec ça et à ranger les tiennes. Et tu sais, en fait, c'est pas très compliqué. Mais il y a une sorte de pacte tacite dans le couple qui fait que quand on voit que quelqu'un est dérangé par quelque chose qu'on fait, mais que justement cette personne ne s'en plaint pas, c'est là où en fait on commence à ranger nos affaires. Tu vois ? Sinon, on est encore en face de sa mère qui dit « Ah, oh, t'as pas rangé tes slips quand on était adolescent. » Et donc, du coup, bah, on va avoir la même réaction que quand on était adolescent. Et on va continuer de pas le faire. Parce que voilà, parce que merde alors. Mais quand on vit en bonne intelligence avec les gens, on leur reproche pas de faire ça. On range nos propres affaires et on range les siennes. Pourquoi pas, tu vois ? En disant « Ouais, non, mais j'aime bien quand c'est clean. » Et puis voilà, et comme la personne, elle se voit qu'elle n'est pas reprochée de faire ça, eh bien, elle change son attitude. En fait, vraiment, faut comprendre que les gens ne changent pas parce qu'ils sont menacés. Les gens évoluent parce qu'ils ont envie d'évoluer. Donc, du coup, l'idée, c'est de se mettre soit dans un espace où on se contrôle et au final, c'est sûr que ce sera plus clean, mais qu'est-ce que ça va devenir, la relation ? Ou bien dans un autre espace où, en fait, on se respecte les uns les autres et, en fait, tout le monde va avoir envie d'évoluer ensemble. Moi, à chaque fois, j'ai travaillé avec des couples qui ne s'entendaient pas pour des problèmes comme ça, du quotidien. À chaque fois, je leur ai dit « Et alors ? Et quand bien même ? Est-ce que ça fait d'elle une mauvaise personne ? Est-ce que ça fait de lui une mauvaise personne ? Non, bah non, c'est vrai. Bon, ok, c'est bon. Alors, vivez dans le bordel. Vivez dans le bordel absolu. Ok, vas-y, toi, mets tes affaires par terre. Vas-y. Et après, demande-toi si c'est ça que tu as envie de vivre quand tu accueilles une personne dans ta maison. Est-ce que c'est ça que tu as envie de vivre ? Est-ce que tu traites cette personne comme tu aimerais qu'elle te traite ? Et d'un seul coup, ils sont tous là. Mais devant, c'est juste une évidence. Ils sont là, tous les deux. Ouais, c'est vrai, en fait, on est cons, quoi. C'est juste ça. Comment j'ai envie de... J'avais envie de te traiter comme t'aimerais que je me traite, mais évidemment, je fais pas ça. Et en fait, c'est des séances où ils rentrent chez eux, on les revoit plus. Ou on les croise 3 ans après, et ils sont super heureux. Et tout va bien, c'est juste ça. C'est cette espèce de mesquinerie à comment je vais montrer mon territoire, comment je vais montrer que c'est moi qui est le chef à la maison, c'est absurde. Donc ça, c'est vraiment, je pense, les deux trucs les plus difficiles. Et après, il y a toutes ces projections qui font la jalousie, par exemple, sur l'autre, en disant, voilà, si je suis pas là, est-ce que l'autre va pas avoir une autre relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, etc. Moi, j'ai un pote, une fois, il était très chiant avec ça. Hein. C'est aussi pour ça que je l'ai clashé direct. Il dit, ouais, tu vois, je pars. Donc, il partait 15 jours, 3 semaines. Il dit, je pars, tu vois. Ah, ça me chauffe et tout. Je sens que, tu vois, j'ai dit pourquoi. Il me dit, ah, parce que Mélanie, il me dit, ah, Mel, je sens que je suis jaloux, tu vois, il pourrait tout se passer. Oh, je dis, ah ouais, donc t'es en train de dire que Mélanie, t'es une salope. Il dit, quoi ? Pas du tout. Je dis, alors ferme ta gueule. Tu vois, ça, toutes ces projections, à un moment donné, on doit se rendre compte que derrière ces projections, il y a des jugements ou il y a un truc insultant. Si tu fais une projection sur moi, ça veut dire que quelque part dans ta tête, t'es en train de m'insulter par ailleurs. Si je fais une projection sur ma meuf en disant que parce que je vais m'absenter un mois, elle va se taper la terre entière, ça veut dire que je suis en train de l'insulter dans ma tête pour rien. Et quand il m'a regardé et je lui dis, non, ferme-la. Si tu penses que c'est pas une salope, alors ferme-la. Ou alors, ouvre-la, mais ça veut dire que tu penses que c'est une salope. Ça veut dire que ta meuf, tu l'insultes en fait. Et dire, oh, putain, t'as raison. Je dis, quoi qu'il se passe, qu'est-ce que t'as envie de penser de cette nana ? Il me dit, ok, allez, reset. Et il est fait un reset. Et après, bon, ces projections, on sait d'où elles viennent. Hein. Je veux dire, quand on projette des trucs comme ça, c'est parce qu'on a les mêmes idées dans la tête. Mais le truc, c'est ça, c'est pas de projection sur l'autre. Je fais pas de projection sur ses intentions et tout. Moi, j'étais très, 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 très jaloux, tu vois. Donc, parfois, j'ai des espèces de réminiscences comme ça. Et parce que j'ai passé tellement d'années à me sentir pas aimé, tu vois, que je me suis dit que voilà, à un moment donné, ma conclusion, c'était ça, c'était que dès que je m'absentais, les gens m'oubliaient, quoi. Et donc, j'étais très jaloux pour ça. Donc maintenant, quand j'ai des réminiscences de ça, ça monte et je me dis, mais t'es en train de faire quelle projection sur elle? Donc voilà, ça, c'est pas de projection. Pas de projection. Ça, ça fait partie de mes nonos. Et après, oui, après, c'est, pour moi, c'est, il y a une part qui est très importante dans la rencontre, dans la connexion de la connaissance de soi, qui est, les fenêtres de Johari. Donc, si vous connaissez pas, renseignez-vous sur les fenêtres de Johari, J-O-H-A-R-I.
Tu l'as mentionné dans le dernier épisode aussi.
Ah oui. Les fenêtres de Johari, la première fenêtre, c'est ce que je sais de moi, que les autres ne savent pas. C'est l'intimité, c'est la façon dont je suis, avec laquelle je vis, enfin, c'est comme je vis quand je suis loin des gens, quand je suis chez moi, et comment je me balade en caleçon ou à poil, ou voilà, comment je prends ma douche, tout ça, c'est mon intimité. Moi, je pense que dans la fenêtre de Johari, dans le couple, pardon, il faut préserver cette fenêtre-là, de l'intimité. C'est-à-dire que, voilà, je connais des couples, ils sont aux toilettes avec la porte ouverte. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, à un moment donné, il faut savoir juste préserver ça. Parce que c'est cette première fenêtre et puis parce que c'est précieux, l'intimité. C'est pas parce qu'on partage la sexualité avec une autre personne, c'est-à-dire vraiment pour le coup l'intimité, c'est pas parce qu'on la partage que d'un seul coup, on peut se permettre d'ouvrir l'intégralité de notre champ intime. Non, je crois qu'il n'y a pas ça. Et je connais un couple avec une femme, une nana qui fait ça. On pourrait penser que c'est un mec, tu vois, qui voit, genre, je pète au lit et tout ça. En fait, c'est la nana qui fait ça. Et en fait, je vois à quel point ils s'en rendent pas compte parce que ça les fait beaucoup rigoler, mais ils sont en train de tuer leur couple. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dégrader leur relation parce qu'elle ne représente plus la femme qui l'a séduite. Elle a tué l'intégralité de tout ce qui pouvait être un peu romantique chez elle. Et lui, aujourd'hui, donc il en a rigolé beaucoup. Et aujourd'hui, il commence à lui dire arrête, 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 arrête. Et à un moment donné, ça va être trop, quoi. Alors que pour elle, c'est presque devenu un jeu. C'était presque rigolo pour elle. Donc là, ce sont mes amis. Donc ils sont pas là, ils sont pas dans mes programmes. Donc j'ai rien à leur dire. Mais je les vois faire. Et je me dis tiens, ça c'est marrant. Je crois que je me félicite quand je les vois. Pour moi, c'est je regarde, donc je juge pas, je me dis voilà, ça se passe comme ça. Est-ce que moi j'ai envie de faire ça dans mon couple? En fait, je me rends compte que non, que je le fais pas. Je pense que c'est profondément heureux pour la relation. C'est vraiment, faut pas tout mélanger, quoi. Et en fait, je crois c'est même pas préserver une sorte de, non, c'est juste, c'est mon intimité, quoi. Bon, ça veut dire, on partage la salle de bain et y a pas de problème, tu vois. Mais ça s'arrête à certaines choses. Il y a des choses qui sont pas forcément ragoûtantes. J'ai pas envie, tu vois, d'être plongé là-dedans. Et j'ai pas envie que l'autre se plonge là-dedans, voilà quoi. Donc voilà. Après, c'est tout ça, c'est très personnel parce que c'est des choses que je vois. Et tu me poses la question, j'essaie d'y répondre. Mais je pense quand même que ce rapport à l'intimité, son rapport à soi-même dans l'intimité, il est quand même capital, quoi. Voilà, c'est les quelques petits points, c'est mes big nonos à moi.
Ouais. Puis c'est aussi communiquer sur ce que nous on a envie de vivre. Et quels sont le cadre qu'on a envie de mettre à notre relation, varier selon tout le monde.
Et puis après, on peut l'affirmer, le cadre, hein. On peut l'affirmer. Moi, il m'est arrivé de dire, OK, j'entends bien que c'est vers ça que tu vas, mais je suis pas certain d'avoir envie de vivre ce genre de relation. Je pense que c'est pas ça. Moi, je signe pas pour ça. Ça m'intéresse pas. Pour un truc, on se fout sur la gueule à moindre truc? Non, 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 non. Ça m'intéresse pas. Donc, tu continues si tu veux, mais moi, je joue pas à ça. On peut faire autrement.
Super intéressant. Merci Laurent pour tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager sur les relations, que ça soit, on a évoqué l'amitié, on n'a pas évoqué trop la famille, mais aussi les relations romantiques. Est-ce qu'il y a d'autres conseils, d'autres petits messages que tu aimerais partager avec les gens qui nous écoutent?
En fait, la famille, je trouve que c'est très intéressant. La famille, on peut avoir un lien absolument merveilleux quand on se place à un autre niveau que le regard du petit humain qui a souffert de la relation avec les uns et les autres. Mais de se rendre compte qu'en fait, bon, c'est une communauté particulière, c'est une communauté non choisie. Enfin, elle est choisie spirituellement, mais elle n'est pas choisie dans notre rapport humain terre à terre. Et justement, quand on regarde les autres dans cette famille pour qui ils sont, et non pas ce qu'on aimerait qu'il soit, il y a une très très belle histoire à vivre. C'est-à-dire de considérer qu'en fait, ben, nos parents, ce sont ma mère s'appelle Maryse, mon père s'appelle Claude, et donc j'ai beaucoup travaillé pendant des années en atelier avec mes clients en disant vous faites pareil avec le prénom de vos parents, mais c'est avant d'être papa et maman, c'est Maryse et Claude. Et papa et maman, c'est des gens formidables, mais Maryse et Claude, c'est des losers de première. Ils sont mauvais sur plein de choses. Ils sont mauvais sur la relation, ils sont mauvais sur l'argent, ils sont mauvais sur les affaires, ils sont mauvais sur plein de choses. Ils sont même assez mauvais sur l'amitié, ils sont assez mauvais, ils sont mauvais sur plein de choses. Donc j'aime bien me rappeler que ce sont Maryse et Claude. Et tant que c'est papa et maman, je vais leur en vouloir. Mais si c'est Maryse et Claude, ils font ce qu'ils peuvent, quoi, tu vois. Et je vois parfois Maryse qui essaye de faire des trucs et Claude, quand on a essayé, il est plus là depuis longtemps, mais qui a essayé de faire des trucs. Non, il, franchement, tu feras mieux la prochaine fois. C'est ce que j'ai dit à mon père quand il est décédé. J'ai dit, bon, tu feras mieux la prochaine fois parce que là, c'était vraiment pas ça. Mais c'est pas grave, quoi. T'as essayé, t'as donné le meilleur de toi-même et c'est tout. Et je vois Maryse qui donne le meilleur d'elle-même et ça me fait chier parce que c'est maman, Maryse. Mais en même temps, c'est magnifique depuis que je sais que c'est Maryse. Et on peut avoir vraiment un vrai lien fort avec les gens de notre famille en voyant les choses comme ça, en regardant les gens pour ce qu'ils sont. Après, dans la relation d'amitié, je pense que moi, j'ai une relation à la fraternité qui est quelque chose de très particulier. Donc, pour moi, les amis sont très, très, très importants. J'en ai très peu, mais ils sont très, très importants. Même des gens qui ne savent même pas, d'ailleurs, qui ont cette importance-là dans ma vie, je ne leur demande rien. Mais ils sont des gens qui sont autour de moi la plupart du temps, et qui sont présents physiquement. Et l'amitié avec les gens est très, très importante. Même les gens que je connais peu, les gens avec qui je suis allé déjeuner hier, c'est des gens que je connais depuis pas longtemps, ça doit faire un an et demi, à peu près 2 ans que je les connais. Ouais, c'est ça, à peu près. Et en fait, j'ai beaucoup d'amour pour ces gens. Je vois comment ils grandissent, comment ils avancent, etc. Ils sont bons dans ce qu'ils font. Ils sont encourageants. Et on peut avoir n'importe quel sujet de conversation. Ils vont dire, ah, putain, c'est génial. Ah ouais, tu veux faire ça, etc. Je trouve, ils s'intéressent à tout. Quand ils parlent avec mon fils, c'est pas pour lui dire, alors, tu travailles à l'école? C'est pour lui dire, alors, où tu t'éclates? Je fais du foot. Ah ouais, toi, c'est génial. Voilà, ils sont toujours enthousiastes et heureux de ce qui se passe dans nos vies et nous pareil avec eux, et ça c'est important, et ça c'est vraiment pour moi ce rapport là il est essentiel. Je pensais pas qu'un jour je l'aurais parce que je savais même pas que ça existait, mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Et après pour le couple, je crois qu'il y a aussi un élément, on en a pas parlé, mais c'est la sexualité, c'est cette parenthèse absolument merveilleuse de partage et de confiance absolue avec une autre personne. C'est-à-dire comment justement je peux, avec un autre être humain, c'est un concept que j'adore, c'est un autre être humain que je ne connaissais pas hier soir, hein. Je ne connaissais pas cet autre être humain, et avec un autre être humain, on peut avoir une relation, on peut partager une parenthèse où l'amour et la confiance sont absolus. Ça ne veut pas dire qu'on va passer notre vie ensemble. Mais la sexualité dans une relation amoureuse, ou dans une relation romantique, ou dans un couple qui dure longtemps, c'est vraiment quelque chose de profond. Et tous les gens qui disent « ouais, pff, en même temps, la routine », moi, c'est un concept que je ne comprends pas. La routine, c'est juste le temps qui passe, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, de minuit à minuit. Enfin, tu vois, c'est une horloge qui tourne et du temps, c'est de l'espace. Donc, on ne peut pas être tué par la routine. On peut être tué par ce qu'on en fait de ce temps-là. Et ce qu'on en fait, c'est notre responsabilité. Et en fait, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à prendre en responsabilité aujourd'hui dans les couples que je vois autour de moi. C'est prendre la responsabilité de rendre notre couple, et non pas soi-même ou l'autre, rendre notre couple heureux dans cette parenthèse magnifique de la sexualité. Et pour moi, j'aime bien voir ça comme une parenthèse. C'est vraiment une bulle dans laquelle on rentre et dans laquelle on va... on n'est pas obligé, c'est même pas obligé d'ailleurs d'avoir une sexualité avec des pénétrations et tout. Ça peut être juste dans le rapport intime, la caresse, la douceur, tu vois, masser l'autre. Ça, c'est, et pour moi, il est là, le cercle intime. Ça commence là, dans l'intimité, tu vois. Masser l'autre. Ça peut être aussi, donner du plaisir à l'autre et lui fournir des sensations. Mais être dans un rapport où on dit, voilà, je suis dans l'amour et je vais très, très loin dans l'amour avec toi jusqu'à aimer que toi seul prenne du plaisir, par exemple. Ou que toi seul te décontractes avec mon massage. Et ça, c'est puissant, ça. Quand on a cette conscience-là, et qu'on y met ça, c'est plus les corps qui se rencontrent. C'est deux âmes, c'est l'énergie, c'est là ça commence à devenir spirituel. Et on est incarné. C'est pas une relation sexuelle spirituelle platonique et éloignée. Non. C'est, on mélange tout, on mélange nos âmes, on mélange nos corps, on mélange nos fluides, on mélange nos sueurs, on mélange notre amour, on mélange de... Et ça, c'est un élément essentiel, et je vois que beaucoup, beaucoup, beaucoup de couples qui viennent dans les programmes ont oublié ça, totalement. Ils espèrent que ça va bien se passer. Non, mais on va pas espérer que ça se passe bien, on va organiser ça pour que ça se passe super bien, quoi. Et là, encore une fois, si on a des blocages, et on peut, hein, c'est pas un drame, eh bien, on sort du couple et on va les régler avec. Il y a des thérapeutes partout. Donc, pourquoi continuer à être dans un couple en disant oui, mais en même temps, machin, tout ça. Non, mais c'est pas avec lui que tu dois ou avec elle que tu dois discuter. C'est avec un kinésiologue, avec un hypnothérapeute. Cette personne, cette femme-là en face de toi n'est pas la femme avec laquelle tu as un problème. Cet homme-là en face de toi n'est pas l'homme avec lequel tu as un problème. Et ça, c'est marrant. C'est une phrase de François que j'ai, mon ami sage. Il a vécu un moment, il s'est fait un peu agresser par une femme et il dit « Je crois que je ne suis pas l'homme avec lequel tu as un problème. » Et j'ai éclaté de rire parce que c'était tellement vrai. Tout compte fait, je crois que je ne suis pas l'homme avec lequel tu as un problème.
J'adore, je m'en souviendrai de cette petite phrase aussi. Ah, super, merci infiniment Laurent pour tous tes partages, c'était tellement généreux, tellement riche, il y a plein de choses que j'ai absorbées et tu as dit en début de conversation aussi que tu avais le sentiment que ton âme était là pour vivre deux choses, la fluidité au niveau de l'amour et la fluidité au niveau de l'argent et je sens dans ton énergie cette fluidité. Et c'est très inspirant et voilà, donc je voulais te dire et merci encore une fois pour tout.
Ça me touche. Merci Anouk. Et merci d'ouvrir ces espaces d'expression que tu fais avec moi ou avec d'autres. C'est précieux et je vois comme tu laisses la place justement à ça. Je me sens tellement en confiance, tu vois. Que parfois je me dis tiens c'est marrant. Je te parle comme si tu étais ma meilleure amie, mais tu l'es sans doute quelque part, tu vois. mais je te remercie parce que c'est voilà cette confiance et en fait voilà on sent. Et j'ai écouté d'autres podcasts chez toi. On sent qu'il y a un vrai désir d'aller chercher profond. Du coup, l'espace est grand. Et quand on y rentre, parce que tu nous tiens la main, on se sent pas perdu. Donc, merci beaucoup à toi.
Merci.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode. Je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment pris plein de notes. Et je sais qu'il y a des choses qui vont continuer à m'accompagner. Comme par exemple le fait de traiter les autres comme on aimerait être traité par les autres. Ou le fait de faire la différence entre notre ressenti et notre jugement, qui sont deux choses différentes. J'ai aussi adoré toute cette notion sur la responsabilité qui nous permet de grandir. Ou le fait d'être fluide et de se dire « ben c'est ok en fait ». Et même, je me dis, je pense que j'ai beaucoup cette fluidité en moi dans mes relations. Et je sais, par exemple, il y a des gens autour de moi qui parlent sur moi. Et je me dis, just let it go. Il y a des gens, il y a même des amis qui ont traché un peu sur moi. Mais je me dis, en fait, c'est pas grave, je les aime pour autre chose et c'est pas grave. Ouais, vraiment, j'ai ce truc. J'ai aussi adoré comment recevoir les conseils des autres et à la fois être dans l'écoute, mais à la fois être dans soi et dans ce qu'on... Soit on est prêt à faire, soit les conséquences qu'on est prêt à assumer. Ça, je sens que c'est super pour moi d'entendre ça. Et ça me conforte dans plein de choix, finalement, que je fais, où je sais que les autres feraient peut-être pas la même chose, mais moi, je suis prête à faire ça, et chaque jour, je me dis, je suis dans ma ligne. Anyway, this is for me. J'adorerais savoir quelles sont les choses qui t'ont le plus parlé dans cet épisode. Qu'est-ce que tu vas retenir? Viens nous le dire sous la fenêtre de l'épisode Instagram. Je pourrais comme ça interagir avec toi. Et puis si le podcast te plaît, alors c'est le moment de te rendre sur l'application Apple Podcast. Je sais que certains d'entre vous ont envie de le faire, mais se disent « Ah, later ». Well, later is now, my friend. Donc rendez-vous sur cette application Apple Podcast pour me laisser un commentaire et 5 étoiles. It really, really helps the podcast. Comme chaque semaine, ça a été fantastique pour moi d'être dans tes oreilles. J'espère de tout cœur que tu vas bien, que tu prends soin de toi. Et puis, si personne ne te l'a dit aujourd'hui, alors laisse-moi te rappeler que tu es une queen et que, comme dirait Laurent Marchand, tout est possible. Passe une très belle journée, soirée, où que tu sois, et à la semaine prochaine.